Vous écoutez On lit pour vous.
L'homme qui programme le cerveau de Yacoub Dobesch. Un texte de Guillaume Lefrançois, paru le 16 mai 2026 dans La Presse. 1h20 du matin, vendredi. Un homme, au crâne luisant, au timbre de voix assuré, se présente à l'écran pour ce qui sera une entrevue, disons, différente des autres. L'homme en question, c'est Pete Fry, un préparateur mental établi à Vancouver, d'où l'heure tardive de l'appel. Sa particularité, il travaille spécifiquement avec les gardiens et Yacoub Dobesch fait partie de ses clients. Convaincu de la justesse de ses méthodes, il en offre même un aperçu. Voici exactement ce que je fais avec Yacoub. Peux-tu te lever? Assure-toi d'avoir de la place et imagine que tu as un demi-cercle devant toi. Puis, il se met à enfiler les mots d'encouragement. En ce moment, tu te vois dans ton demi-cercle. Tu lis bien le jeu. La rondelle paraît grosse. Le jeu ralentit. Tes coéquipiers t'applaudissent. Tu es un mur. Fais-moi savoir quand tu te sens à 10 sur 10. Il le reconnaît. Une partie de ce qu'il tente d'accomplir, c'est de l'hypnose. Je veux me rendre dans le subconscient. C'est comme si j'aimantais le gardien, illustre-t-il. Un morceau de métal magnétique va soulever 12 fois son poids. Démagnétisé, il ne peut même pas lever une feuille de papier. L'importance des pensées. Fry a lui-même déjà porté les grosses jambières. Il a même été repêché par les Devils du New Jersey au 10e tour en 1987, mais n'a jamais atteint la LNH ni même la Ligue américaine. Je pense que ce qui me manquait le plus, c'était l'aspect mental, estime-t-il. Une fois que j'ai été repêché, je me suis dit que les Devils avaient de bons gardiens dans leur système. Quelles sont mes chances? C'était des pensées négatives. Et l'image que tu te fais de toi-même dans ton subconscient, tu seras naturellement porté à tenter de la reproduire. Si tu as peur d'accorder un but, tu vas probablement reproduire ça. Si tu te vois comme un mur, tu en seras un, affirme Pete Fry. Il tente aussi d'inculquer à ses clients ce qu'il appelle la mentalité de l'athlète, une mentalité qui se décline de plusieurs façons. Quand mon équipe écopait d'une pénalité, je me fâchais contre l'arbitre ou contre mon coéquipier, raconte Fry. Maintenant, quand le Canadien est puni, Yacoub est content, parce qu'il se dit qu'il aura une chance de briller. On inverse la trame narrative. Sinon, quand mon équipe contrôlait la rondelle en zone défensive ou en zone neutre, je me disais « Sortez-la! Sortez-la! » Et la photo dans ma tête, c'était que la rondelle était à l'autre bout. Mais si on commettait un revirement, j'étais en retard d'un jeu. À l'inverse, si Yacoub espère un revirement de son équipe, il aura un coup d'avance si ça se produit. Un gardien routinier. Depuis son arrivée chez les professionnels, Dobesch a toujours été reconnu pour l'attention qu'il accorde à l'aspect mental de son jeu. En octobre dernier, il racontait à la presse qu'il s'empêchait d'aller souper avec ses coéquipiers la veille d'un match à l'étranger, afin de ne pas entraver cette préparation. Le jour du match, c'est plus mental que physique. Donc, si j'ai du temps pour me détendre, je peux conserver mon énergie, décrivait-il. Lisez Jacob Dobesch, à l'aise, loin de la maison. Ce bout-là, ça vient entièrement de lui. Il ne voulait même pas souper avec moi la veille de son match à Vancouver, en début de saison, rigole Fry. Je note de telles habitudes chez certains gardiens. C'est une façon d'obtenir de la certitude à une position pleine d'incertitude. Un de mes gardiens, Easton Rye, a une rotation de 10 films qu'il regarde avant chaque match. Ça lui donne une certitude, car il connaît les films par cœur. Cette force mentale a visiblement servi Dobesch dans la victoire de jeudi à Buffalo, dans le match numéro 5 de la série face aux Sabres, quand il a réussi 32 arrêts de suite après avoir cédé 3 fois sur les 4 premiers tirs. Il est très confiant. Il fait beaucoup de travail hors glace pour s'assurer d'être prêt mentalement, observait Nick Suzuki après la joute. Une partie de ce travail mental vient de Pete Fry, avec qui il travaille depuis son arrivée chez le Rocket de Laval en 2023. C'était sur la recommandation de Marco Marciano, alors entraîneur des gardiens du Rocket, qui a été promu avec le grand club l'hiver dernier. Dès sa première victoire dans la LNH en décembre 2024, Dobesch soulignait le travail accompli avec Fry, notamment pour bien utiliser ses calories de concentration, avait-il dit. Leur travail se fait principalement par visioconférence, une fois par semaine, parfois plus. « Je fais un zoom pour les pros », dit Pete Fry. Mais souvent, son horaire ne concorde pas. Donc, il se joint à un zoom avec des 13-14 ans. Les jeunes se présentent un à un. Puis, c'est son tour. « Je suis Jacob Dobesch, du Canadien de Montréal. » Comme notre entretien a eu lieu quelques heures après la conclusion du match à Buffalo, il n'avait évidemment pas encore pris le pouls de son poulain. Mais de façon globale, il le sait bien équipé face à la pression de la position de gardien à Montréal. « Ça dépend de la façon dont on conçoit cette pression », nuance-t-il. Jacob adore les fans. Il veut bien jouer et ils font partie de ce qu'il motive. Je pense qu'il l'utilise à son avantage. C'est pour ça qu'il avait été émotif après le match au New Jersey en novembre. Et il l'a sorti de son système. Il était correct. Je lui ai parlé le lendemain. Il en riait. Après la victoire jeudi, Dobesch a noté qu'il aurait pu mieux gérer son langage corporel pendant la tempête du début de match. C'est justement une des clés relevées par Fry pour la suite. Parfois, un gardien qui ne fait pas un arrêt va passer quelques secondes à se dire « j'aurais pu l'avoir ». C'est mieux de ne pas avoir ce feeling, mais c'est la nature humaine. L'important est qu'il retrouve sa confiance avant la mise au jeu suivante. Il doit se dire « je suis un mur, je suis puissant ». Je suis Jacob Freakin Dobesch. La recette n'est peut-être pas pour tous, mais de toute évidence, elle fonctionne avec Dobesch ce printemps. C'était l'homme qui programme le cerveau de Jacob Dobesch. Un texte de Guillaume Lefrançois, paru le 16 mai 2026 dans La Presse.
Les pour et les contre d'une vie sans auto. Un texte de Nina Dragicevic de la presse canadienne, paru le 5 mai 2026 dans la presse. Le travail et les commodités sont à proximité. Vous disposez de bonnes options de transport en commun. Avez-vous vraiment encore besoin de votre voiture? Beaucoup de conseillers répondent par la négative. Après le logement et l'alimentation, les transports constituent le troisième poste de dépense parmi les plus coûteux pour les Canadiens, comme l'a confirmé Statistique Canada. Rate Hub a constaté qu'en 9 ans, les dépenses liées à l'auto peuvent s'élever à plus de 139 000 $. Ce chiffre a été calculé avant la flambée des prix de l'essence. Que pourriez-vous faire d'autre avec cet argent? De notre côté, si vous renoncez à votre voiture, il y a des contraintes et de nouveaux coûts à prendre en compte. Mark Lotokai, propriétaire et planificateur financier au Dixon Davis Group, à Victoria, en Colombie-Britannique, a vécu sans voiture de 19 à 35 ans. J'ai essentiellement vécu dans un environnement favorable aux transports en commun et au vélo pendant toute ma vingtaine et jusqu'au milieu de la trentaine, témoigne M. Lotokai. C'est possible et c'est formidable. J'ai adoré ça. Les coûts apparaissent dès que l'on sort de ce réseau de transports en commun, explique-t-il. Taxi, services de voiturage, location, et covoiturage. Il compare la possession d'une voiture à un coût d'expérience, car elle permet de sortir de la ville, de rendre visite à sa famille ou à ses amis, de faire des excursions d'une journée ou des escapades routières. Imiter ce mode de vie sans posséder de voiture entraînera de nouvelles dépenses. Selon la fréquence à laquelle vous souhaitez quitter la ville, M. Lotokai estime que renoncer à la voiture vaut tout de même la peine si c'est occasionnel. Il donne l'exemple d'une visite chez un ami qui vit à une heure de route de chez lui, faite en ayant recours à un système d'autopartage. Cela me coûtait probablement entre 85 et 90 $ pour passer la nuit là-bas, ce qui est cher, mais beaucoup moins cher qu'une voiture, souligne M. Lotokai. Il est également possible d'emprunter un véhicule à sa famille et à ses amis et de leur donner un peu d'argent en échange. Remboursement du prêt. Votre automobile est-elle entièrement remboursée? C'est la première question que poserait Janet Gray, conseillère financière chez Money Coaches Canada. Si ce n'est pas le cas et que vous devez plus que la valeur du véhicule, vendre celui-ci signifie continuer à payer la dette d'une voiture que vous ne possédez plus. Madame Gray a récemment reçu une jeune femme qui ne pouvait plus payer ses mensualités après 15 mois. Mais la valeur d'une voiture neuve se déprécie rapidement et le solde de son prêt était supérieur au prix de vente du véhicule. Selon les conditions de votre financement, il faut compter entre 2 et 4 ans pour atteindre une valeur nette positive sur une voiture neuve, ce qui signifie que vous pourriez la vendre sans perdre d'argent. Ensuite, Mme Gray s'intéresserait au trajet domicile-travail. Elle vit à Ottawa et explique que vivre en dehors du centre-ville peut impliquer des trajets en transport en commun extrêmement longs. Les obligations familiales et professionnelles sont également des facteurs importants. On voit des parents qui se débattent dans les transports en commun avec des poussettes et ça ne conviendrait pas à tout le monde, rapporte Mme Gray. Ça dépend aussi de leur travail, n'est-ce pas? Si leur travail les oblige à être sur la route ou s'ils s'occupent d'un parent ou d'un enfant, alors une voiture serait vraiment utile. Cependant, sans ces besoins, l'intérêt de garder une voiture diminue lorsqu'on additionne les frais d'entretien, de réparation, de stationnement, d'assurance et surtout d'essence. Le coût des réparations. Une voiture entièrement payée, c'est bien, jusqu'à ce que vous deviez soudainement faire réparer les freins. Avez-vous déjà fait réparer les freins de votre voiture? Ça coûte facilement 2000 $, indique Mme Gray. À mesure que la voiture vieillit, vous n'avez peut-être plus de mensualités à payer, mais vous avez désormais plus de réparations. Essayez de vivre sans voiture pendant un certain temps, conseille M. Lotokai. Stationnez votre auto quelque part et utilisez d'autres moyens pour vous rendre au travail et faire vos courses. Faites le calcul des coûts des autres modes de transport. Donnez-vous 6 mois et comparez ces chiffres au coût de possession d'une voiture. En fin de compte, c'est une question d'expérience, pointe M. Lotokai. Quelles expériences vivez-vous avec une voiture et quelles expériences vivez-vous sans voiture? Et demandez-vous, ce coût en vaut-il la peine pour moi? Même si avoir des enfants fait partie du plan quinquennal, M. Lotokai dit qu'il est tout de même judicieux de vendre la voiture maintenant et d'en racheter une plus tard. Les frais de possession pendant ces années, en particulier pour le stationnement payant ou le remisage, grèvent vos finances. Garder la voiture, au cas où, peut également devenir une prophétie autoréalisatrice, souligne M. Gray. Il existe une dérive comportementale liée au fait de posséder une voiture qui fait que l'on finit par l'utiliser simplement parce qu'on l'a. Placement des économies. Si vous décidez de vous séparer de votre véhicule, repoussez la tentation que représente l'argent supplémentaire dans votre budget mensuel, probablement plusieurs centaines de dollars. Pour les plus jeunes, Mme Gray recommande de placer ses économies dans un fonds d'urgence et un compte d'épargne libre d'impôts. Elle n'est pas très favorable au régime enregistré d'épargne retraite, REER, à ce stade de la vie, car les revenus sont généralement plus faibles et il est plus judicieux de cotiser le maximum au REER plus tard, lorsque les revenus seront plus élevés. Ou que vous placiez cet argent supplémentaire, assurez-vous de lui donner un objectif et de vous y tenir. Si les gens n'ont pas de crédit automobile à rembourser, il faut de la rigueur pour mettre cet argent de côté, car ils vont simplement améliorer leur train de vie. Je vais sortir dîner 4 fois par semaine et je vais voyager beaucoup plus, et ils ne font donc pas réellement d'économie, explique Mme Gray. Il faut vraiment prendre la décision consciente de placer cet argent dans un compte d'épargne et se dire « je n'y toucherai pas, car c'est destiné à un objectif précis ». Mais tant qu'ils n'ont pas défini d'objectif, cela ne fait que contribuer à l'expansion du train de vie. C'était « Les pour et les contre d'une vie sans auto », un texte de Nina Dragicevic de La Presse canadienne, paru le 5 mai 2026 dans La Presse.
SOS Patrimoine religieux. Un texte de Maxime Bergeron, paru le 13 mai 2026 dans La Presse. Je passe devant l'église Saint-Édouard jour après jour depuis 20 ans, sans jamais y porter trop attention. Elle fait partie du décor, immuable. Ce bâtiment domine pourtant mon quartier avec ses clochers aussi hauts qu'une tour de 20 étages, son architecture néo-gothique, ses fresques et ses vitraux spectaculaires en font un bien patrimonial d'exception. Mais, qu'on le remarque ou non, le bijou a perdu de son lustre. Signe le plus visible, ses marches sont clôturées de longue date. Sans financement pour rénover tout ce qui s'effrite, Saint-Édouard pourrait, à terme, fermer ses portes, craigne des paroissiens. Ou pire encore, s'ajouter aux 145 églises démolies depuis 2 décennies dans la province. Comment rénover, réinventer ou simplement préserver les quelques 2000 lieux de culte du Québec? La question a été explorée sous tous les angles pendant un grand colloque organisé à Montréal. Réponse courte, il existe des tonnes d'exemples de conversions réussies. Réponse un peu plus longue, ces transformations sont plus complexes que jamais en raison de l'explosion des coûts de la main-d'œuvre et de la lourdeur réglementaire. Les prières au petit Jésus n'y changeront rien. Notre patrimoine religieux, ou ce qu'il en reste, est au bord du précipice. Je n'avais pas vu autant de monde à l'église depuis des années. Ils étaient des dizaines rassemblés à Saint-Pierre-Apôtre, près du pont Jacques-Cartier, pour jaser de la chose ecclésiastique. Pendant 3 jours, ces experts locaux et internationaux ont exposé les meilleures pratiques en matière de conversion, mais aussi les difficultés que posent ces chantiers.
Faire du neuf avec du vieux en respectant le caractère sacré et patrimonial du lieu, un vrai chemin de croix. Le portrait québécois donne le vertige. Un inventaire réalisé en 2003 a recensé 2751 lieux de culte dans la province. Depuis, un tiers ont été vendus, 7 % ont fermé leurs portes et 5 % ont été démolis. Des centaines d'anciennes églises ont réussi à trouver une nouvelle vocation. Elles se sont muées en logements privés ou sociaux, en centres communautaires, en salles de spectacle et même en terrain intérieur de pickleball. Ces modernisations inspirantes ont fait du Québec un leader mondial dans le domaine. Mais les cieux s'obscurcissent, m'a expliqué Jocelyn Groux, directeur général du Conseil du patrimoine religieux du Québec, CPRQ, qui organisait le colloque. L'argent manque déjà depuis des années et en juin 2025, surprise, le ministère de la Culture a suspendu ses programmes de financement pour la restauration et la transformation des lieux de culte au moment même où les fermetures s'accéléraient. Beaucoup de projets ont subi des contre-coups, me dit-il. Cette décision a été assortie d'une contrepartie. Après avoir commandé un rapport fouillé sur le patrimoine immobilier religieux, Québec a formé un comité pour analyser la suite des choses. Un autre comité. Je vous entends râler d'ici. Mais la formation de ce groupe, qui comprend entre autres le CPRQ, l'Union des municipalités et l'Assemblée des évêques catholiques, m'apparaît prometteuse. Ces travaux visent à démêler les rôles de chacun dans la gestion éparpillée de ce patrimoine et à trouver des mécanismes pour financer la montagne de projets à l'horizon. Sur papier, cela ressemble drôlement à l'exemple des Pays-Bas. Le petit pays européen de 18 millions d'habitants est l'un des plus sécularisés au monde. Il compte 7100 lieux de culte, dont une bonne part a été désaffectée pendant les dernières décennies. Devant la crise qui se dessinait, le gouvernement néerlandais a décidé en 2019 de se doter d'une politique nationale sur l'avenir de ses églises. Son objectif? Concerter les groupes religieux propriétaires, les municipalités, les citoyens et les groupes communautaires pour discuter franchement de l'avenir de ces lieux dans chaque communauté. Le premier pas était que tout ce monde commence à se parler, m'a résumé Liliane Grootswager, spécialiste des conversions d'église et conseillère du gouvernement néerlandais en marge du colloque. Le sujet est tabou. Il est souvent difficile pour les communautés religieuses de reconnaître que leur église locale est sur le point de fermer. Mais l'exercice a porté ses fruits. Ce grand dialogue, assorti d'un budget initial de 9,5 millions d'euros, 15 millions canadiens, a permis à l'État d'obtenir une visibilité à moyen terme sur le nombre de fermetures anticipées. Quelques 1500 conversions ont déjà été réalisées, m'a souligné Mme Grootswager. Et le gouvernement a appris que 1700 autres lieux de culte devront se trouver une nouvelle vocation dans les prochaines années. Sa stratégie et ses budgets sera adapté en conséquence. Le Québec n'en est pas là. Des tensions persistent entre les désirs de préservation du patrimoine et les contraintes financières des propriétaires. L'exemple de l'église montréalaise Saint-Eusèbe de Verseille est pathétique. Les normes strictes imposées par la régie du bâtiment rendent aussi plusieurs projets de conversion irréalistes. Résultat, les églises restent vides et pourrissent. Des assouplissements sont en discussion, ai-je appris, ce qui pourrait donner un peu d'oxygène aux promoteurs. Je doute que le sujet s'immisce dans la campagne électorale. Mais une chose est sûre, le prochain gouvernement du Québec aura des décisions existentielles à prendre pour l'avenir d'un grand pan de notre patrimoine collectif. C'était SOS Patrimoine religieux, un texte de Maxime Bergeron paru le 13 mai 2026 dans la presse.
L'actualité verte de la semaine. Un texte de Jean-Thomas Léveillé et l'Agence France-Presse paru le 4 mai 2026 dans la presse. La mortalité des bélugas en hausse. 19 carcasses de bélugas ont été trouvées à la dérive ou sur les rives du Saint-Laurent en 2025, révèle le bilan du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, GREMM, un organisme à but non lucratif. Il s'agit d'un retour à la moyenne des 42 dernières années, après la faible mortalité historique de 2024. Aucune dystocie, c'est-à-dire une complication lors de la mise bas, n'a causé la mort des femelles trouvées, alors qu'elles étaient fréquentes depuis quelques années, ont démontré les nécropsies réalisées sur 11 carcasses. Cela pourrait indiquer une diminution de ce problème ou une diminution des naissances. La France publie son plan pour se sevrer du pétrole. La France s'est démarquée mercredi à la première conférence sur l'abandon des énergies fossiles en Colombie en publiant sa feuille de route pour éliminer progressivement le charbon, puis le pétrole et enfin le gaz, et devenir carboneutre en 2050. Selon les observateurs, aucun autre pays n'a publié de plan aussi clair et complet. Par ailleurs, l'un des principaux aboutissements du sommet est la création d'un groupe de scientifiques chargés de conseiller les gouvernements de tous niveaux dans la planification de leur transition énergétique. Le prochain sommet aura lieu en 2027 à Tuvalu, petit état insulaire du Pacifique menacé par la montée des eaux. Diminuer l'empreinte carbone du béton. L'Université de Sherbrooke crée un pôle d'excellence sur les bétons bas carbone, pour accroître l'utilisation de béton à faible émission de gaz à effet de serre. L'établissement estrien développe des bétons plus verts depuis 3 décennies, mais veut par cette initiative convaincre l'industrie d'adopter ces nouveaux matériaux en faisant travailler ses chercheurs avec les entreprises du secteur et les propriétaires d'infrastructures. L'équipe travaillera par exemple avec le secteur minier pour donner une seconde vie à certains sous-produits en remplaçant une partie du ciment dans les nouveaux bétons développés dans une approche d'économie circulaire. C'était l'actualité verte de la semaine, un texte de Jean-Thomas Léveillé et l'Agence France-Presse, paru le 4 mai 2026 dans la presse.